Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Dernier jour de fête et de prière pour les participants aux 28e Journée mondiale de la jeunesse à Rio de Janeiro. Après la veillée samedi soir au cours de laquelle il avait invité les jeunes à suivre les pas de Jésus pour changer le monde, le pape François a célébré la messe conclusive de ce rassemblement, toujours sur la plage de Copacabana. Son retour à Rome est prévu lundi, en fin de matinée. Les prochaines JMJ se dérouleront à Cracovie. Du jamais vu à Copacabana, la célèbre plage de Rio de Janeiro, même pour le carnaval ou le réveillon de la Saint-Sylvestre. 3 millions de personnes se sont retrouvées pour prier autour du pape François lors de la messe conclusive des JMJ à laquelle a assisté la présidente brésilienne Dilma Rousseff ainsi que ses homologues argentins et boliviens. 3 millions de personnes et 1200 évêques ont accueilli le pape François en dansant dans le plus grand flash mob de l'histoire, un record historique selon le maire de la ville. Le pape a traversé la foule en jeep ouvert sur 3 km jusqu'au podium, en s'arrêtant souvent pour embrasser des enfants et donner sa bénédiction aux fidèles qui hurlaient de joie. Dans son homélie, le Saint-Père a exhorté les jeunes venus des quatre coins du monde à devenir missionnaires. « Jésus vous appelle à être des disciples en mission », leur a-t-il dit, en leur livrant un mandat en 3 points. « Allez, sans peur, pour servir ». Mais pour le souverain pontife, l'évangélisation doit aussi s'enraciner sur le terrain social. « Porter l'évangile », a-t-il expliqué, « c'est porter la force de Dieu pour arracher et démolir le mal et la violence, pour détruire et abattre les barrières de l'égoïsme, de l'intolérance et de la haine, pour édifier un monde nouveau. Nous retrouvons notre envoyé sur place, Olivier Toscri.
La messe de clôture des JMJ a été à l'image de l'événement joyeuse. Les pèlerins enthousiastes qui ont passé la nuit sur la plage de Copacabana ont immédiatement oublié les fatigues de la veillée pour réserver un accueil chaleureux au pape. François, visiblement heureux de venir saluer une nouvelle fois ces jeunes, l'acclamant, l'applaudissant et lançant sur son passage des drapeaux et des objets à bénir. Les 4 km de plage n'étaient plus qu'une foule compacte aux couleurs du monde, une foule fervente. Après l'avoir ému par ses gestes, le pape a su une nouvelle fois s'adresser à elle en employant des mots simples qui l'ont touché. « Le Christ vous envoie en mission », a-t-il dit aux jeunes.
« Para onde Jesus nos manda ?»
Où nous envoie Jésus? Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de limites, il nous envoie à tous. L'évangile est pour tous et non pour quelques-uns. Il n'est pas seulement pour ceux qui semblent plus proches, plus réceptifs, plus accueillants. Il est pour tous. N'ayez pas peur d'aller et de porter le Christ en tout milieu, jusqu'aux périphéries existentielles. Également à celui qui semble plus loin, plus indifférent. Le Seigneur est à la recherche de tous. Il veut que tous sentent la chaleur de sa miséricorde et de son amour. Une chaleur que les jeunes ont ressentie tout au long de ces JMJ et dont ils pourront et devront témoigner à leur retour. Un témoignage qu'il convient de partager avec le plus grand nombre. Comme il l'a dit aux prêtres et aux évêques, François demande aux jeunes de sortir de leur paroisse, de leur communauté. Il les enjoint à aller sans peur pour servir. Évangéliser, a-t-il dit, c'est un témoignage qui dépasse les égoïsmes et les craintes pour se mettre au service de ses frères et des plus pauvres. Une attitude que François leur a présentée tout au long de ses JMJ. Jésus-Christ compte sur vous, l'Église compte sur vous, le pape compte sur vous, leur a-t-il lancé, pour édifier un monde meilleur et nouveau. Un appel auquel les jeunes sont impatients de répondre. À Rio de Janeiro, Olivier Tosseri pour Radio Vatican.
« 60 cardinaux, 1500 évêques et 11 000 prêtres étaient présents. La liturgie eucharistique s'était ouverte par l'hymne officiel des JMJ, entonné par une chorale formée de prêtres venus de tout le pays. Parmi eux, des religieux qui font largement recours à la musique dans leur travail d'évangélisation. Les chants de la messe ont été composés par des jeunes brésiliens. Et si la messe a été célébrée en portugais, la langue du pays d'accueil, la prière des fidèles a été dite en 6 langues, dont l'arabe et le japonais. On a prié aussi pour les victimes de la catastrophe ferroviaire de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au moment de l'offertoire, une petite fille née sans cerveau a été portée à l'autel par ses parents. La mère de l'enfant avait refusé d'avorter, même si la loi brésilienne l'y autorisait. Elle a préféré accueillir cette vie. Sa présence au cours de la messe conclusive des JMJ était donc hautement symbolique. À la fin de la messe s'est déroulé le traditionnel envoi missionnaire. Le Saint-Père a remis à 5 couples de jeunes une petite reproduction du Christ rédempteur du Corcovado, ainsi qu'un livre de prières. Après la veillée de prière samedi soir, de nombreux jeunes avaient préféré passer la nuit sur place, chantant et priant, malgré les conditions difficiles. Certains avaient installé leurs sacs de couchage à même les trottoirs des rues avoisinantes. Beaucoup étaient venus en scandant « Nous sommes la jeunesse du pape », dans une ambiance joyeuse et chaleureuse, mais aussi empreinte de ferveur. En raison des fortes pluies de ces jours derniers, les autorités, vous le savez, avaient dû déplacer le lieu de la veillée de la messe conclusive. Le vaste terrain aménagé à grands frais pour accueillir les deux temps forts des JMJ s'était transformé en dangereux bourbier. Il était cependant trop tard pour installer les infrastructures nécessaires sur le bord de mer. Une situation inconfortable donc, qui n'a pas découragé pour autant l'enthousiasme des jeunes. Lucas Cusiac, bénévole québécois en charge des réseaux sociaux pour l'Amérique du Nord, qui avait déjà participé au JMJ de Madrid, a été frappé par la manière dont les Brésiliens vivent leur foi.
Je trouve qu'il y a vraiment des différences. Les gens ici sont vraiment animés. Ils sont prêts à montrer leur foi. Ils sont prêts à chanter. Ils sont prêts à discuter avec toi. Qu'est-ce que ça ressemble la foi pour eux? En tant que visiteurs, ils sont très chaleureux. Ils souhaitent tout le monde le bienvenu. Et puis, c'est vraiment une expérience. On peut remarquer les différences dans la vie ici.
Comparé à Madrid, qu'est-ce qui te marque le plus sur ces JMJ?
C'est vraiment la culture, ça me frappe très fort. Les gens du Brésil, on dirait qu'ils sont un peu plus relax en tant que les JMJ. Il n'y a pas trop d'horaire, les gens ne semblent pas être trop stressés. Donc j'apprécie ça en tant que bénévole et aussi en tant que pèlerin sur le chemin.
Un des thèmes fondamentaux des JMJ, un des axes principaux, c'est la mission, l'élan missionnaire. L'utilisation des réseaux sociaux, c'est quelque chose d'important, de fondamental dans cette optique?
Absolument. On a la mission d'aller propager le message du Christ. Aller donc de toutes les nations, faites des disciples. C'est vraiment notre mission au sein des communications, d'aller partager la bonne nouvelle avec du monde qui ne se trouve pas à Rio cet été, mais aussi ceux qui cherchent une réponse pour leur vie dans leur contexte de la foi.
On sait que le pape François est un pape populaire qui a suscité un grand enthousiasme, même au-delà des frontières du catholicisme. C'est quelque chose aussi, un atout, quelque chose qui aide pour amplifier le message, le transmettre à plus de monde.
Je crois que oui, il est très ouvert, il est très chaleureux. Il y a cette connexion avec la jeunesse. Les jeunes semblent d'établir une force avec lui, une relation un peu plus personnelle, même s'il est au Vatican, nous autres on est en Amérique du Sud ou Amérique du Nord. Il porte un esprit très joyeux et on sent ça au sein des JMJ aussi. Ça donne une bonne expérience pour nous.
Des propos recueillis par notre envoyé sur place. Et c'est donc à Cracovie qu'auront lieu les prochaines JMJ en 2016 en Pologne, terre d'origine du pape Jean-Paul II qui les a instituées et dont la prochaine canonisation a déjà été annoncée. L'archevêque de Cracovie, le cardinal Dziwisz, ancien secrétaire personnel de Jean-Paul II, avait déjà indiqué qu'il avait proposé sa ville pour accueillir les prochaines Journées mondiales de la jeunesse, d'autant que 2016 marque le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne. Il y a quelques jours, le directeur du bureau national des JMJ en Pologne avait affirmé que la candidature de Cracovie était au sommet de la pile sur la table du pape François. L'Afrique est le seul continent à n'avoir jamais accueilli de JMJ. Et c'est donc à la fin de la messe conclusive ce dimanche, au moment de la prière de l'Angélus, que la nouvelle a été donnée officiellement. Chers jeunes, pour les prochaines Journées mondiales de la jeunesse, nous nous donnons rendez-vous en 2016 à Cracovie, en Pologne. Par l'intercession maternelle de Marie, demandons la lumière de l'Esprit-Saint pour éclairer le chemin qui nous conduira à cette nouvelle étape de célébration joyeuse de la foi et de l'amour du Christ. Et le Saint-Père a invité une fois encore les jeunes à être des disciples missionnaires et à prendre pour modèle Marie, qui est allée en toute hâte annoncer la bonne nouvelle. N'ayez jamais peur d'être généreux avec le Christ, cela en vaut la peine, leur a-t-il dit. Sortir et aller avec courage et générosité pour que tout homme et toute femme puissent rencontrer le Seigneur. Nous ne pouvons pas rester enfermés dans notre paroisse, dans nos communautés, quand tant de personnes sont en attente de l'Évangile. C'est le cœur du message du pape François, soit pour les jeunes et pour l'Église tout entière. Venu de France, le frère Pierre apprécie beaucoup cet appel à une évangélisation qui passe aussi par un engagement auprès des plus pauvres.
Tout le monde le sait, même les non-croyants, ils savent que François, pauvre. Alors qu'on entre dans cet esprit pauvreté que l'Église s'arrache des entrailles, que l'Église puisse entrer dans le mystère de Jésus-Christ qui s'est fait pauvre pour nous sauver, qui s'est fait petit, qui s'est fait humble. Alors chaque pape a eu sa grâce, a travaillé quelque chose. Notre pape Benoît XVI, c'était la dimension de la rectitude de la doctrine, et il a tenu un bateau et bah. Et puis le pape François, il nous invite à plonger dans la pauvreté de Jésus, qui n'est pas limitée à la pauvreté matérielle, mais qui peut l'inclure grâce à Dieu. Comment un jeune peut être pauvre aujourd'hui ? Alors que rien n'est plus horrible et insupportable que d'être pauvre. Mais comment un jeune chrétien, un jeune catholique en France, avec toute la thune qu'on a, avec le débordement de nourriture, on sait qu'on balance de la food, on a tout ce qu'on veut, comment un jeune Français peut vivre comme un pauvre sans pour autant non plus se faire une espèce de film de ce que pourrait être la pauvreté, genre Saint François, mais Saint François, il a vécu il y a genre 1000 ans à peu près. Donc nous, on est là, aujourd'hui, comment être pauvre ? Jésus veut nous enseigner cette pauvreté. Probablement à travers le pape François. Donc effectivement, si j'ai une attente, c'est peut-être celle-ci qui l'indique aux jeunes, le chemin de la pauvreté, mais pas un idéal de pauvreté, la réalité, comment être réellement pauvre. C'est-à-dire accueillir, accueillir, accueillir. Le pauvre, c'est celui qui accueille. Et accueillir, c'est s'ouvrir à la dimension de la transcendance, de l'ouverture à l'autre. Lorsqu'on accueille, on est ouvert aux autres. Et lorsqu'on est replié, que ce soit sur nos richesses physiques ou spirituelles ou je sais pas quoi, et ben là, on n'est pas dans la pauvreté, on est des riches. Seigneur nous bénisse, nous remplisse de son esprit de pauvreté. Amen.
Comment on fait pour être des missionnaires dans une société qui est plus très réceptive à ce que croient ces jeunes-là ? Comment eux, ils vont faire en rentrant pour parler de leur foi et pour évangéliser ?
Personnellement, il me semble que ce n'est pas une question de parler de la foi. C'est présenter Jésus, donner Jésus avec tout ce qu'on est. Ça peut passer par la parole. Ça passe par le travail, l'amitié en particulier. Être celui qui allait puiser dans cette espèce de puits énorme d'amour là, dans lequel on est à des milliers et des millions de personnes, où on reçoit l'amour les uns des autres tout simplement. Et bien on se réalimente, on se réanime de cet amour, de ce Saint-Esprit qui vient nous bénir les uns par les autres pendant ce temps de JMJ. Et donc la foi, c'est nous, c'est notre affaire. Après, il y a une dimension charismatique de diffusion. Il ne s'agit pas qu'on parle de la foi. Il s'agit que par notre témoignage, on transmette la grâce de Dieu, la lumière qui va éclairer ces personnes qui ne croient pas en Jésus de l'intérieur. Ça passe par l'amour. Aimons-nous les uns les autres et on n'a rien d'autre à faire. On le fait ici, donc on expérimente cet amour tout simple entre toutes les nations. Et Jésus nous réunit et autour de notre pape, de nos évêques, de nos curés, tout ça. Et nous, on va, lorsqu'on va retourner dans le monde, on va aimer sans dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut faire pour être chrétien, quelle valeur morale, etc. Ça, oui, ça existe. Il me semble que ce n'est pas la première chose. La première, Jésus nous demande de nous aimer les uns les autres. Aime tes frères, travaille avec eux, regarde-les, prends-les dans tes bras. Il ne nous demande pas de nous faire la morale et de croire en lui. Il ne nous dit pas, tu vas aller faire croire en moi. Il nous dit, aimez-vous les uns les autres. Faites des disciples, mais c'est du côté de l'amour. Jésus est un maître de l'amour. Jésus nous enseigne l'amour et cet amour qui nous élève jusque dans la vie éternelle. Donc ayons confiance, ça s'appelle l'espérance, ayons confiance que l'amour nous est donné, que les personnes que nous aimons, à travers nos témoignages, à travers notre joie, eh bien, l'amour va passer, le Saint-Esprit de Dieu.
Au cours de la veillée de prière samedi soir, les propos du pape François avaient eu un vaste retentissement dans ce pays en proie depuis des semaines à une contestation sociale. Votre cœur jeune veut construire un monde meilleur. Je suis les nouvelles du monde et je vois tant de jeunes qui sont sortis dans les rues pour exprimer leur désir d'une civilisation plus juste et fraternelle, a-t-il dit sous les applaudissements avant de renchérir. S'il vous plaît, ne laissez pas les autres devenir les acteurs du changement. Ne restez pas au balcon de la vie. Jésus n'y est pas resté, il s'y est engagé. Engagez-vous-y, comme l'a fait Jésus. C'est par vous que passe l'avenir du monde. Je vous demande d'être les acteurs de ce changement. Continuez à dépasser l'apathie et offrez une réponse chrétienne aux inquiétudes sociales et politiques qui surgissent dans différentes parties du monde. Je vous demande d'être les bâtisseurs de l'avenir. Au cours de ces JMJ, le pape François a imprimé encore un peu plus sa marque, chaleureuse et déconcertante, dans une église qu'il veut voir bouger et faire du bruit, comme il l'a dit. Un message qui passe bien auprès des jeunes. En se rendant dans une favela, en rencontrant des détenus et des toxicomanes, il a donné l'exemple aux jeunes pèlerins pour les inviter à inventer à leur tour des gestes qui redonnent confiance et remettent debout ceux qui tombent sur le chemin. Dans leur immense majorité, les jeunes ont été conquis par sa chaleur et son énergie débordante, par ses paroles simples et concrètes. Écoutez les commentaires recueillis par notre envoyé sur place, Olivier Tossery.
François, je le trouve très touchant.
Ce qui me touche beaucoup, c'est la proximité, sa jovialité.
Il dégage une sorte d'humilité, de simplicité qui me parle beaucoup. Il est accessible, j'ai l'impression. C'est bien pour l'Église que ce soit lui qui a été choisi pour être pape. dans ce temps de crise et tout ça, qui s'intéresse plus aux pauvres, c'est intéressant.
Il lave les pieds des prisonniers, c'est un père vraiment qui va mettre l'accent sur le développement et pour les pauvres. Et puis je trouve qu'on a besoin de ça dans la mondialisation.
Je trouve qu'il va très bien avec les temps qu'on vit. Justement, on reproche des fois à l'église d'avoir trop de superficialité, trop de richesse au Vatican et tout ça. Puis lui, on voit qu'il apporte une simplicité dont on a vraiment besoin, j'ai l'impression.
Il n'a pas cette distance. Oui, moi je suis pratiquant, je suis catho et tout. Non, c'est vraiment, il cherche et il réussit même à rejoindre les gens, quelles que soient leurs idées.
Il parle de l'évangélisation, il nous pousse à évangéliser et je trouve que c'est une bonne chose parce que jusqu'à présent, moi, j'avais jamais pensé à évangéliser, par exemple, et maintenant que le pape en a parlé, je suis plus poussée à évangéliser auprès des gens que je connais qui ne croient pas en Dieu ou qui refusent l'Église.
Bah après, faut réfléchir, faut trouver des moyens pour voilà, leur faire connaître la Bible et le Christ et l'Église. Moi, le témoignage que je vais un peu pratiquer, c'est beaucoup par les actes et puis par la façon de faire, d'agir. Je pense que si on agit en tant que chrétien, des fois, ça pousse les personnes à se poser des questions, puis à venir elles-mêmes s'interroger sur notre façon de vivre, notre façon de penser, nos valeurs. Et puis à ce moment-là, on va pouvoir ouvrir une discussion et partager voilà, notre foi, ce qu'on ressent à propos de ça, et puis évangéliser.
Si on porte une croix sur nous, ça peut pousser les gens à se demander pourquoi est-ce que tu portes ça, pourquoi, et à poser des questions, à s'intéresser. Et si après ils s'intéressent plus, on peut en parler et leur proposer de faire des choses plus en lien avec la religion, leur aller à la messe ou à des concerts catholiques, ce genre de choses.
Il délivre un message aux jeunes. Quel message les jeunes pourraient lui délivrer ?
Répondre à son appel et répondre à ses propositions, ça pourrait être déjà un bel élan de la jeunesse pour lui. D'être là et de répondre présent.
J'ajoute que selon un sondage d'un quotidien brésilien, les pèlerins des JMJ sont opposés à 75% à l'avortement, à 67% au mariage gay, mais favorables à la contraception, qu'il s'agisse du préservatif, 65%, ou de la pilule, 53%. En plus bref, l'Église italienne et le Collège des cardinaux sont en deuil. Le cardinal Ercilio Tonini, une des figures les plus connues, populaires et représentatives de l'Église italienne, est mort dans la nuit de samedi à dimanche. Le 20 juillet dernier, il avait fêté ses 99 ans. Archevêque émérite de Ravenne, il était le plus âgé des cardinaux. Il était très apprécié des médias auxquels il n'hésitait pas à avoir recours pour accomplir son œuvre pastorale. Il disait que ce qu'il y a de plus efficace, c'est l'amour, beaucoup plus que le pouvoir ou le luxe, que la meilleure façon d'être chrétien, c'est de se montrer fraternel. Il disait que la vie est un don immense, un cadeau, la plus belle chose que Dieu ait inventée. Il avait été créé cardinal à l'âge de 80 ans par le pape Jean-Paul II en 1994. Ses obsèques se dérouleront le mardi 30 juillet en la cathédrale de Ravenne. Le pape François s'est associé au deuil de l'Église italienne pour la disparition de ce cardinal bien-aimé. C'est ce lundi soir à 19h que l'archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle, Mgr Julian Barrio, présidera les obsèques des victimes du déraillement d'un train qui a fait 78 morts mercredi dernier. La célébration se déroulera dans la cathédrale, au lieu de pèlerinage depuis des siècles. Les rues de la ville ont été parsemées de fleurs et de bougies. Accusé d'homicide par imprudence, le chauffeur du train était entendu par un juge ce dimanche. Suite à la catastrophe ferroviaire, le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Georges Pontier, a exprimé au nom de tous les catholiques français, sa compassion, sa solidarité et ses prières pour les victimes, leurs proches et l'ensemble du peuple espagnol, voisin et ami. Les catholiques français, écrit Mgr Pontier, mesurent ce que représente le choc de cette terrible épreuve survenue à la veille de la fête de Saint-Jacques le Majeur. Un geste irrationnel et violent, une grave offense envers Dieu et la communauté chrétienne. C'est en ces termes que l'archevêque de Santiago du Chili a qualifié l'attaque menée le 25 juillet contre la cathédrale de la ville de la part de manifestants favorables à l'avortement. Mgr Ricardo Ezzati a fait également part de son mécontentement à l'égard de ceux qui devraient garantir l'ordre public. Jeudi, 5000 personnes manifestaient dans le centre de Santiago en faveur de l'avortement libre. Au cours de la célébration de la fête patronale, un groupe est alors entré violemment dans la cathédrale lançant des slogans contre la vie et pour l'avortement. Il a interrompu la messe, des personnes ont été agressées, tandis que le patrimoine artistique de ce monument national subissait des dégâts. Des autels ont été recouverts de peintures. Cette attaque a été fermement condamnée par le président chilien Sébastien Piñera, qui a réaffirmé l'engagement de son gouvernement en faveur de la liberté religieuse et de la sauvegarde de la vie de l'enfant à naître. C'est la fin de ce magazine, mais vous pouvez à tout moment retrouver toutes les informations sur les JMJ et le voyage du pape François au Brésil. mail sur notre page internet radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican en français, sur Twitter et sur nos applications. Et si vous avez des questions ou des idées, une adresse magfra@vatiradio.va. Merci de votre fidélité.